vous écoutez Radio FMR sur 89,1 MHz en modulation de fréquence. Nous sommes le samedi 21 novembre 2009. Nos programmes pour cet après-midi à 13h30. Du sport, les résultats sportifs en direct des vestiaires, l'infirmerie et de la présidence de la République. À 15h, du reggae avec un programme qui n'est pas déterminé. À 17h, Radio FMR cède son antenne FM à Booster FM sur les 89,1 MHz. Mais dans l'immédiat, voici le documentaire sociétal que vous attendez tous.
Précédemment dans le supplément week-end.
On va faire comme on fait d'habitude, hein, c'est-à-dire on cale le disque en direct. Alors tu prends le premier, là, celui que t'as dit. Oh ouais, super.
Pourquoi changer une équipe qui gagne ?
Radio FMR présente. Le supplément week-end. Le magazine des cultures geeks. Avec du sport
en retard,
Ultimatum,
excusez,
Daspreech
présent
et la participation exceptionnelle de JB
malade. Grand Dieu, mais cela veut dire que je vais animer tout seul une partie de cette émission. Voilà, bah ça faisait un temps que ça n'était pas arrivé. Ceci dit, bonjour et bienvenue, vous êtes sur le Supplément Weekend, le magazine qui va vous apprendre plein de cultures totalement inutiles, donc absolument indispensables. Je suis très heureux d'être avec vous sur cette antenne, très heureux aussi de l'animer un peu tout seul pour une fois, ça faisait longtemps que ça n'était pas arrivé. Et très heureux aussi de vous dire que il fait très beau dehors pour un fin de mois de novembre. Et ben c'est la preuve que il y a sérieusement un réchauffement climatique et ça tombe bien, il y a plein de choses à faire ce week-end, je vous rassure. Uniquement pour ceux qui nous écoutent en FM en direct, je suis vraiment désolé. Il y a entre autres le festival Extrême Cinéma qui a lieu en ce moment à la Cinémathèque. J'ai eu un plaisir immense et non dissimulé, j'étais pas le seul, à avoir rencontré Jean Rollin jeudi dernier à la Cinémathèque. Jean Rollin, cinéaste du cinéma, bicinéma de genre, cinéma vraiment dans tous les genres. On en reparlera, on espère caler un de ces quatre, une interview avec ce réalisateur de l'étrange. Ça n'est pas le seul, et ça continue toujours, puisque figurez-vous que ce soir, à la Cinémathèque de Toulouse, ce sera la nuit Portnawak, ce sera une nuit de clôture. C'est la première fois qu'ils font ça pour Extrême Cinéma. Et c'est un immense plaisir. Ça rappelle un peu les faubourgs du cinéma, qui était une manifestation qui a été créée par Franck Prio, Alex Masson, professeur Thibault, tous ensemble. Il y a il y a bien 15 ans, la deuxième séance du soir était consacrée à un cinéma bis, cinéma de genre, cinéma étrange et cinéma décapant. Et ben là, ce soir, ça tombe bien. Donc c'est la fermeture et accrochez-vous pour le programme. Il y aura Branded de Peter Jackson en version originale, American Ninja, Nine Deaths of the Ninja, qui en fait est le quatrième de la série des ninjas, puisque avant il y avait le ninja blanc et puis il a changé de boîte de prod, de Emmett Alson en VF. Et ça, je dis ouais, parce que quand même, les doublages français sont souvent pourris, mais alors ceux des films pourris, ils sont pas tristes non plus. Isla la tigresse du goulag, Isla the Tigress of Siberia de Jean Lafleur, c'est un film canadien, sera présenté aussi. Et Enfoiré de Président, qui est un court-métrage d'environ une heure de Julien Founet et Mathieu Sens, où le pitch est relativement simple. Coluche est président, la résistance organise. Et plein de courts-métrages. Ça commence à 22h. Si vous êtes donc sur Toulouse et vous nous écoutez actuellement en direct, sachez que c'est à partir de 22h à Cinémathèque. L'entrée est à 15€. Le nombre de places, bien évidemment, est limité. Il y a environ 220 places assises dans la salle 1 de la Cinémathèque. Et à 6h du matin, si vous êtes encore debout, si vous êtes encore réveillé, si vous avez tenu jusqu'au bout cette diarrhée d'images, eh ben, la Cinémathèque offrira café et chouquette. Waouh ! Nuit d'anthologie. Alors je vous préviens, on y va avec des copains. Donc si vous voulez y aller, essayez d'avoir les places avant nous. Comme ça, nous, on repartira la queue entre les jambes en disant « Oh, mais mince, c'est trop injuste !» D'un autre côté, il y a le 23e festival de salon, 23e salon de la bande dessinée à Colomiers. C'est ce week-end, on n'a pas eu les infos une fois de plus. Ça fait immensément plaisir de la part des organisateurs qui pourtant nous connaissent. Donc avec une apparition de Jean-Christophe Chosy, qui est un ancien de la radio, ça me fout la honte. De ne pas être au courant parce que Chosy est un dessinateur absolument extraordinaire qui sait bien présenter les banlieues et aussi la musique puisqu'il a un nouvel album qui s'appelle La guitare de Bob Diddley et il y a vraiment plein de choses à découvrir avec lui. Notamment, il a fait venir Étienne Robial qui est le graphiste furieux qui a créé Futuropolis, co-créé pardon Futuropolis. C'est lui qui a été aussi qui a créé la ligne graphique de Canal+ qui existe encore 25 ans après, ainsi que le logo de M6, 8TF1, il me semble, est le premier logo de France Télévisions. Il y aura une partie manoir avec Son Yang qui est invité bien sûr par les éditions Chiaopan. Et plein de choses, mais comme je n'ai pas plus d'informations, je vous invite à chercher donc le salon de la bande dessinée de Colomiers. Voilà, c'est vraiment dommage qu'on n'ait pas eu d'infos, tant pis pour eux, et puis voilà. La semaine prochaine, c'est le 3e Toulouse Game Show, festival de jeux vidéo, de Japanimation, de bande dessinée, de comics et de séries télé. Série C à Diagora à la Beige, c'est 28 et 29 novembre, nous y serons, mais le programme sera préenregistré puisque en fait on va vous passer derrière dans l'organisation, je vais dire, du Toulouse Game Show et un peu ce que vous allez découvrir, ainsi que toute cette culture geek-otak dans laquelle on est tous baignés. Il y aura en invité Corinne Nemec, du sport on parlera tout à l'heure, c'est un acteur que vous connaissez peut-être. Bon, si vous le connaissez pas, ça veut dire que Parker Lewis a perdu. Eh oui, Bernard Minet, qui était le chanteur symbole de Bioman et tout ça, et c'est quelqu'un, on l'a eu en interview dans le Super Bowl Weekend, qui est étonnamment, qui est bourré d'humour, qui ne rejette pas son passé, n'en prend pas ombrage si on en parle, et après tout, eh ben non, lui, ça lui fait marrer, et surtout, comme la génération qui l'a connu a grandi, ce n'est plus un chanteur pour gamin, c'est un chanteur pour fou furieux, et lui-même il est complètement fou furieux, il est adorable en plus, et il est accessible, et ça c'est un gros plaisir. Il y a aussi toute la délégation de la chaîne No Life, avec Suzuka, Alex Pilo, la série Noob, ils viennent en force, je crois qu'il y a, ils sont une vingtaine. Il y aura l'équipe de Nerds que l'on a eu en interview l'an dernier, et plein de choses. Bref, ça... à mon avis, ça a déchiré. Je rappelle quand même que l'an dernier, on était en direct là-bas et c'était absolument gigantesque. Pas seulement le direct, hein, vraiment ce qui se passait à l'intérieur avec des expos autour de Robocop, une porte des étoiles. Et ben cette fois-ci, il y aura l'équipe de Stargate et plein de choses à découvrir, plus évidemment les boutiques, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi des dioramas, des animations qui sont vraiment délirantes. Donc je vous invite à nous rejoindre, ça c'est le week-end prochain, c'est à La Beige, à la salle Diagora, enfin c'est pas une salle, c'est au complexe Diagora, juste derrière le complexe de cinéma justement, et c'est de 10h à 19h.
Comme du screen test, car nos compliments ne comprennent pas plus qu'à un test.
Et enfin, pour terminer, sachez que le samedi 5 décembre, à la librairie Terre de Légende, il y aura une double dédicace. Qui pour nous est intéressante parce que ce sont deux auteurs que moi j'apprécie personnellement. Serge Pellet, dessinateur de la série Orbital, dont le troisième tome est sorti chez Dupuis, qui est une aventure, je vais dire, de science-fiction politique plutôt bien menée. Et Halim Mahmoudi, dont le bouquin Arabico a vraiment été un choc, et l'a sorti un peu tard, je veux dire, pour les nominations du prix ACBD. où c'est une vision, je veux dire, d'une France qui a du mal à intégrer, une France des banlieues qui est mise au banc de la société, et c'est extrêmement intéressant. On va faire en sorte d'inviter les auteurs en direct parce que c'est vraiment intéressant. Et en plus, le même jour, mais 2 heures avant, on espère, eh ben, on va parler du logiciel libre. On va faire une journée chargée. Donc ça, c'est le 5 décembre. On en parlera plus la semaine prochaine dans le supplément week-end. Voilà, et bien évidemment, je vous invite à aller sur le site de l'émission supplémentweekend.fr, supplémentweekend.fr sans accent ni tiré, pour réécouter les précédentes émissions, relire les chroniques, et justement, eh ben, vous y trouverez la chronique, alors je regarde, mais je sais que je l'ai passée assez vite, oui, d'Arabico, et celle d'Orbital, mais aussi les chroniques de la semaine, comme l'imaginarium du docteur Panassius, la programmation de du sport qui vous passera à partir de 14h, avec d'ailleurs il fera gagner des places pour Zero Horse qui passe au phare de Tournefeuille lundi, et plein de choses. Ah ouais, il y a une prog autour des Ramones, ça va être sympa. Donc n'hésitez pas à aller sur le site web de l'émission et faites-vous plaisir, inscrivez-vous et plein d'autres choses. Ciao. Ah non, qu'est-ce que je dis, ciao. Oh là, je suis pas encore à la fin de l'émission, on a plein de BD à chroniquer aujourd'hui. On va commencer les sorties bande dessinée avec Bravesland. Série scénarisée par Fabrice David et Grégory Lassabière. Et dessinée par Federico Ferniani. Le premier tome de cette série qui sera un diptyque, donc sera en 2 tomes. Une histoire complète, donc s'appelle Constant et c'est chez Soleil. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans cette émission, on a régulièrement parlé du triste exil des colons français qui étaient installés au Québec en 1754, déplacés de force par les Anglais. Ceux qui s'appelaient les Acadiens refusaient de prendre part dans les conflits qui opposaient le roi d'Angleterre et le roi de France. Et c'est une neutralité qui leur vaudra l'exil forcé, justement parce que leur neutralité devenait un petit peu encombrante. Et c'est marrant de voir que le destin des Acadiens, dont le nom donnera Canada, revient régulièrement dans la bande dessinée franco-belge cette année. Il y a eu Canoë Bay, il en a aussi été fait question dans le dernier Passager du Vent. Et l'histoire en est méconnue en France, pratiquement pas enseignée dans les livres d'histoire, pas de film à ma connaissance. Il y avait comme un trou à combler pour la bande dessinée en costume, et c'est tout à son honneur, elle l'occupe. Mais outre les civils qui n'avaient pas demandé grand-chose pendant cette guerre des colonies entre Français et Anglais, sur le nouveau continent, chacun des deux camps a instrumentalisé de son côté les différentes tribus amérindiennes, par les armes à feu, par l'alcool et par le pouvoir. Constant est un Acadien en fuite. Il s'était fait plaisir en sautant la fille d'un haut gradé de l'armée anglaise. Alors, lors de sa cavale, évidemment, oui, il faut fuir un petit peu. Il y a les uniformes rouges derrière qui sont pas contents du tout. Il va faire la connaissance d'un indien Huron, Otirontara, qui va s'engager dans l'armée du roi de France. Otirontara le fait parce qu'il sait que c'est son destin. Alors, drôle d'idée, évidemment, pour le fuyard qui, lui, ne serait absolument pas enchanté de se retrouver en uniforme. Après tout, les Acadiens, comme je vous l'ai dit, avaient toujours fait en sorte d'être neutres dans les conflits. Manque de bol pour Constant, vu qu'on est en temps de guerre, les fuyards, les vagabonds et autres oisifs sont recrutés d'une manière très très insistée pour remplir les effectifs de l'armée du roi, de quelle nation qu'il soit d'ailleurs. Une nouvelle série en costume, matinée à la fois d'action et de beaux paysages. Graphiquement, l'album est très maîtrisé. Ce qui est étonnant quand on sait que c'est le premier album qui sort de Federico Ferniani. Il y a les costumes, les décors, l'ambiance, tout se tient d'une manière efficace avec une composition qui n'hésite pas à jouer sur les cadrages, ce qui est quand même pas si évident que ça. L'histoire commence par la farce pour les scènes de coucherie, mais vire à l'horreur sur la fin. Et c'est une sacrée performance quand même pour un premier album. Fabrice David et Grégory Lassablière au scénario, Federico Ferniani au dessin. Brevesland, le premier tome de cette histoire complète qui en comportera deux, s'appelle Constant et vient de sortir chez Soleil. Dans les nations indigènes, mais avec vraie chose, une histoire contée par Nicolas Vanier, adaptée, co-adaptée par Pierre Boisserie et dessinée par Rick Stelner. Cela s'appelle Loup et ça vient de sortir chez XO Édition et 12 bis Édition. On est au fond de la Sibérie, proche du goulag dont je parlais tout à l'heure. Non, on est dans un coin de Sibérie qui est suffisamment isolé pour que les communistes, les oubliés, laissent vivre la tribu nomade des Évennes. Une nature isolée, préservée de la civilisation. Et les Évennes élèvent les rennes, autour desquelles est basée toute leur culture depuis un bon millénaire. Inutile de dire que la perte des rennes serait catastrophique pour ce peuple. Avoir la charge de la harde est un immense honneur. C'est le cas du fils du chef de la tribu, Sergueï. Et par là même, il doit impérativement protéger les rennes des loups, en les pourchassant si jamais il envoie seulement la queue. Hélas, mille fois hélas, le jeune Sergueï, en traquant une louve, va tomber sur une mère, jouant avec ses trop mignons louveteaux, ils sont tout kawaii. Devant une vision si attendrissante, Sergueï ne pourra résister à autant de bonheur et fera tout pour les protéger de sa propre tribu. Car il s'en fera de distants compagnons dans une nature sauvage et impitoyable en hiver. Et bien évidemment, entre surveiller les rennes et faire ami-ami avec leurs prédateurs, il y a une grande déception qui s'annonce. Sergueï court donc à tout moment, soit que l'instinct des canidés l'emporte, et dévore au moins un des rennes, soit que son secret soit éventé par un membre de sa tribu, ce qui le chasserait de son peuple. Alors Nicolas Vanier, c'est un grand voyageur. Des rencontres il en a fait avec les peuples indigènes. Il a tiré des livres, dont certains furent tirés au cinéma, comme Le Dernier Trappeur et L'Odyssée Blanche. Loup, lui aussi tiré d'un de ses romans, a aussi été adapté au cinéma, avec une sortie qui est prévue en salle normalement en décembre. Il y a une petite faiblesse sur la fin, assez convenu, ce qui n'aurait pas été un problème pour un album destiné à un jeune public. Mais certaines scènes pourraient être un peu trop impressionnantes pour les moins de 10 ans. Cela reste un one-shot frais et agréable, qui laisse une impression d'un long voyage salvateur en le refermant. On sent que Eric Stelner a été enchanté d'illustrer ce conte naïf, même si, quand même, on remarque qu'il a peut-être eu un peu de mal pour dessiner certains des loups. Et ça reste un très très beau bouquin. Sur l'histoire de Nicolas Vanier, co-scénarisé par Pierre Boisserie et dessiné par Rick Stelner, Loup. C'est en co-édition chez 12 bis et XO. Vous écoutez Radio FMR, c'est le supplément week-end numéro 216. Et on reste dans le mystique et dans les peuplades qui vivent isolées de la civilisation. André Téman, Ban Manis, c'est une histoire complète, sortie dans la collection Bande dessinée aux éditions Floozmaker. C'est romancé, mais c'est un destin sur lequel s'est basé André Téman. Et il n'est pas si éloigné que cela, apparemment, de son album. C'est celui d'Alix Lepic, une citoyenne suisse, sextagénaire qui est décédée en 2002 dans un col de l'Himalaya et qui semble avoir été l'artisan de la libération d'un maître d'école et de ses élèves détenus par la guérilla maoïste. Une alpiniste allumée, Alix, qui est revenue au Népal malgré les risques liés à la guerre civile, pour retrouver le Yeti. Le Yeti qui serait non pas un animal légendaire, mais selon ses théories, un hominidé, un très proche cousin de l'humanité. Car Alix est une anthropologue connue dans son milieu, et plusieurs fois elle a escaladé ce pays haut perché dans l'espoir de rencontrer notre si proche et si discret cousin. Vue comme une originale, elle se fera ami-ami avec un dissident maoïste, avec les risques que cela implique, puisque le roi du Népal mène, je veux dire, son pays d'une main de fer. Elle prêtera une oreille attentive à ces gens vus comme des illuminés, et bien évidemment, elle ne trouvera pas l'Yeti. Elle revient 25 ans après, décidée à remettre ça malgré les risques liés à son âge et la difficulté d'une ascension dans l'Himalaya. Là-haut, dans les neiges éternelles, elle y croisera son destin, mais aussi en dénouera bien d'autres. Dans Ban Manis, André Téman offre ici une balade improbable, la découverte du monde des Sherpas, plus près des cieux et plus près de l'inconnu. Une fois de plus, c'est un destin féminin qui l'attire, puisque entre autres, il a dessiné Caroline Baldwin. Et une fois de plus, son personnage a un tourment personnel. Mais il y a peu à redire. Il le fait très bien et c'est un bouquin qui est une invitation à un voyage. Ban Manis de André Téman, c'est dans la collection bande dessinée aux éditions Floozmaker. Allez, vous avez assez entendu mes ragots tout seul. Petit break musical. Street Dance, Break Machine. Back to the 80s. Sweet Dance, Break Machine, on est dans les années 80, c'est la compilation HIP à choper l'émission mythique de Sydney, et c'est pas complètement un hasard. Parce que les années 80, c'est l'arrivée du hip-hop, celle de la techno, il y a eu le deuxième Summer of Love, la popularisation de l'ecstasy, mais c'est surtout une époque charnière dans l'histoire du trafic de drogue en France. Le moment où la vieille garde des milieux marseillais, autrefois réputée mondialement, notamment par les films French Connection, se fait déborder par les petits jeunes des banlieues rouges qui n'étaient jusqu'ici que des petits revendeurs de rue. Frédéric Ploquin au scénario, Pierre Boisserie au co-scénario, et un dessin de Luc Brailly. Oui, c'est le même Pierre Boisserie qui a co-écrit Lou, dont j'ai fait la chronique tout à l'heure. Hein. Le temps des cités. Le deuxième tome vient de sortir, il s'appelle Marbella, et c'est aux éditions 12 bis. Alors, la série Le temps des cités retrace le destin de quatre jeunes de la cité des Mirabelles, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Vous savez, le 9-3, mais on ne le disait pas encore à l'époque. C'est justement à ce moment-là que l'expression va arriver. Et c'est une série qui va nous éclairer sur cette histoire qu'on ne raconte pas dans les manuels. Après avoir réussi un sale coup à la pègre marseillaise, une petite bande de quatre jeunes continue à gérer leur petit trafic de teuchy, quoi, dans le secret espoir de griller des A. Les A, et ben, c'est leur fournisseur en cannabis. Et ainsi avoir de meilleurs prix et une plus grosse marge. Mais dans l'ombre, les stupes les manipulent, faisant en sorte qu'ils prennent de l'importance. Trop heureux de pouvoir ainsi remonter la filière. Le hic, c'est que les petits malfrats vont totalement échapper à leur contrôle. Et c'est à Marbella, une cité balnéaire, capitale du tourisme et de la fête. Ah, les discothèques de Marbella. Et au sud de l'Espagne, mais surtout connue pour ses immenses plages qui font face au Maroc. C'est à Marbella, donc, que leurs petites affaires vont croître quand la petite bande va se mettre en contact direct avec les gros de l'import-export. Seulement si leur business a grossi, on sent qu'il va piétiner sur d'autres. Et pas que sur les grandes mafias. Par exemple, le refus de voir un seul dealer d'héroïne dans les Mirabelles les met en conflit direct avec une bande d'un autre quartier. Et d'un autre côté, une partie de la population de leur banlieue se dit qu'il ne serait pas normal profiter de cette manne. Après tout, ils salissent la cité, autant profiter de leur fric. Faut dire que les quatre lascars manquent sacrément de discrétion et auraient besoin de bons associés pour développer leur affaire. D'après vous, qu'est-ce qui pourrait les convaincre de prendre un avocat? Alors, il y a une raison à la pertinence du scénario. Frédéric Ploquin, qui co-signe le scénario, est grand reporter pour l'événement du jeudi, puis pour Marianne, spécialisé dans le domaine de la police du renseignement et du grand banditisme. Il a écrit des essais, dont Parrain et Caïd, et plus récemment, avec Yves Bertrand, l'ancien patron des renseignements généraux, il a dit, oh, il fait, ah ben oui, bien sûr, impliqué dans l'affaire Clearstream pour le livre « Ce que je n'ai pas dit dans mes carnets ». Vous savez les carnets où Yves Bertrand était si bavard. Alors dans le dossier de presse, on m'annonce que l'histoire qui est contée dans la série « Le temps des cités » est inspirée de la vie d'Imen Moyedine et de Nordine Mansouri, des amis proches d'un certain Samine Nasseri. La fiction n'est donc très probablement qu'un moyen de faire la synthèse d'une histoire, voire de glisser des détails qui n'étaient pas possible de dévoiler en tant que journaliste. Le temps des cités, le deuxième tome s'appelle Marbella, c'est aux éditions 12 bis. C'est vraiment, vraiment, vraiment bien. Frédéric Ploquin au scénario, aidé de Pierre Boisserie et au dessin Luc Brailly. C'est vraiment, c'est un très bon bouquin. Je trouve que c'est vraiment une série à mettre en parallèle avec Arabico, série vraiment qui m'avait marqué, de Halim Mahmoudi. Assassin's Creed, peut-être que vous avez entendu parler beaucoup du jeu ces derniers temps, et c'est normal puisque le deuxième volet de cette trilogie est sorti, donc prêt à jouer sur les consoles next-gen. Enfin, les consoles de la génération actuelle, notamment PS3 et Xbox 360. Mais c'est aussi une bande dessinée, figurez-vous. Une bande dessinée scénarisée par Corberan et dessinée par Djillali Defali. Le premier tome s'appelle Desmond et vient de sortir dans une nouvelle maison d'édition qui s'appelle Les Deux Royaumes. Alors je vais être clair, je ne connais pas le jeu. J'ai suivi par contre attentivement la soirée consacrée à la franchise par Chaîne No Life justement pour cette chronique. Car la sortie du deuxième jeu de vidéo est devenue un investissement très lourd pour Ubisoft. Il faut savoir en moyenne, il faut savoir que le budget d'un jeu vidéo dépasse très largement actuellement le budget d'un film de cinéma, voire même de pas mal de blockbusters. Et justement, là, l'investissement est extrêmement conséquent. Imaginez que l'éditeur de jeux vidéo est ainsi devenu éditeur de bande dessinée, mais qu'il a aussi racheté Hybrid Technologies, une société québécoise spécialisée dans la production d'effets spéciaux au cinéma. Ils ont notamment travaillé avec sur les effets spéciaux et sur les fonds verts de Sin City, de 300 ou des Spy Kids. Inutile de dire, bref, que c'est un peu la boîte favorite où on retrouve un Roberto Rodriguez. Ça leur a permis à Ubisoft de produire en interne 3 courts-métrages autour de l'histoire développée dans Assassin's Creed, Lineage. Mais revenons au jeu vidéo lui-même, le premier volet de la trilogie ludique s'est écoulé à plusieurs millions d'exemplaires. Je crois que les chiffres, c'est de l'ordre de 14 millions. C'est un chiffre plus que conséquent, c'est absolument monumental. Le deuxième, Assassin's Creed, sort comme une expérience étalée sur plusieurs médias, le tout contrôlé, produit en interne au sein du groupe Ubisoft. Qui fait de cette bande dessinée un produit dérivé totalement assumé. Maintenant, on va passer à la critique proprement dite de la BD. Assassin's Creed n'est pas qu'une histoire d'action, c'est surtout une intrigue. C'est une société nantie de moyens colossaux qui a réussi à créer l'Animus, un engin capable de faire ressurgir une mémoire génétique chez certains sujets, de vivre des événements d'un lointain ancêtre. Le temps des croisades, l'Empire romain, la Renaissance. Tout dépend de votre héritage génétique. Mais on apprend fortuitement que les cobayes n'ont pas été si volontaires que ça pour cette expérience. Et que celle-ci est loin d'être sans conséquences. Et cette société ne semble pas si officielle, ce qui semble conforter l'idée que les cobayes ne sont pas pris au hasard, mais pour remonter l'histoire d'une lignée de tueurs, des assassins qui ont été dans l'ombre de l'histoire. Et qu'est-ce qu'il y a au bout ? Bonne question. Graphiquement, le travail est honnête. Si bien évidemment le dessinateur a dû suivre la bible graphique de l'éditeur de jeux vidéo, il le fait avec une touche personnelle, puisqu'on reconnaît son travail de texture et de relief qu'il a fait pour Asphodel et Garou. Asphodel qui est une série qui était sortie chez Delcourt, et Garou chez Soleil. Au-delà du travail de commande, avec un cahier des charges imposé, les auteurs ont su mettre leurs griffes. Et avec les multiples flashbacks qui émaillent l'intrigue, il aurait été facile de s'y perdre. C'était justement un des défauts pointés du premier jeu. Mais là, justement, la lecture reste fluide. Ce qui fait justement dire au patron des studios Ubisoft Montréal, qui développe justement Assassin's Creed, et bien qu'au-delà de nouvelles activités, c'est une consolidation de compétences qu'ils ont acquis. Puisque justement, ils ont pu gommer leurs faiblesses scénaristiques, apprendre beaucoup mieux le travail de mise en scène. La BD reste néanmoins un travail d'artisan. Alors espérons que pour cette franchise, les auteurs de la bande dessinée vont pouvoir garder une certaine indépendance. Corberan au scénario, Djillali Defali, Assassin's Creed, le premier tome de la série BD s'appelle Desmond, et c'est aux éditions Les Deux Royaumes. Hello Dus.
Hello.
Of the you vas-tu?
Ah bah ça va. Alors bah, si tu veux mon avis, j'ai feuilleté là un petit peu justement là Assassin's Creed pendant que tu en parlais, hein, et bon, je dois vraiment t'avouer que le graphisme m'a pas l'air trop intéressant au départ, comme ça. Quand tu feuillettes comme ça.
Au départ, on est.
C'est-à-dire que.
Au départ, c'est vrai qu'il faut rentrer dans le dessin de Défali, et là, ouais. On sent que c'est un travail quand même de commande parce qu'il il ne détaille pas trop les décors. Mais justement, si tu prends Asphodel, t'es impressionné par le travail graphique qu'il fait sur les décors. Là, on sent qu'il est quand même un petit peu bridé par la Bible. C'est un peu dommage. Il y a pas tout son univers.
Non, mais je me dis qu'avec une histoire qui tient le coup et qui tient la route, ça peut le faire quand même. Hein,
ouais.
C'est-à-dire que je vais pas dire que moi ça m'intéresse pas, que c'est un genre de graphisme qui me déplaît. Non, pas du tout. Mais moi le seul.
Il faut
truc
y rentrer. C'est pas évident. Ouais.
Moi, le seul truc que j'ai remarqué que j'aime pas trop, enfin, c'est la police de.
Ah, la police de lettrage.
De lettrage. J'aime pas trop, quoi.
C'est une fausse.
Mais bon, à part ça. Ah bon,
une fausse voilà. Script qui est pas d'une super. Enfin, elle fait trop mécanique, hein, on est d'accord.
Ouais, tout à fait, ouais, ouais. Voilà. Ouais, ça rend pas trop, quoi.
Bon, je te remets la Lochefrine.
Pourquoi tu l'avais mis avant?
Ah oui! Allez, dis-moi. Dis-moi, qu'est-ce que tu m'as demandé là?
Alors, The Boys.
Ouais,
c'est la nouvelle sortie donc chez Panini Comics Garth Ennis et Darick Robertson.
Je viens d'avoir la remontée de précédent tome avec gros boudin.
Alors comme d'habitude, je vais commencer par la quatrième de couverture.
Vas-y.
Dans un monde où les super-héros sillonnent le ciel ou rôdent la nuit, quelqu'un doit faire en sorte qu'ils ne dépassent pas les bornes. Et ça, c'est le boulot de Billy Butcher, du petit Yugi, de la crème, du français et de la fille. Les petits gars de la CIA, une équipe de gens dangereux. Ça tombe bien, puisqu'ils luttent contre la force la plus dangereuse de la Terre, les Gugus à super pouvoir. Certains super-héros doivent être surveillés, d'autres doivent être contrôlés, et certains parfois doivent dégager. C'est là qu'interviennent les petits gars. Pour ce quatrième tome, les gars sont tous en mission privée. Le français et la fille font des affaires avec la mafia, la crème va retrouver sa mère, et Butcher poursuit ses tête-à-tête avec Reiner, le chef de la CIA. Quant à Yugi, s'il veut que la légende lui raconte tous les secrets des boys, il devra prendre soin d'un mort.
Alors ça envoie déjà.
Ça envoie, et... La pochette, c'est pareil. Bon, tu te dis, ok, on rentre dans le tas, batte de baseball et tout team. Et je peux te dire que là, ça envoie, comme d'habitude, je vais dire, hein, c'est toujours le super bonheur.
Ah bah, c'est Garth, Gore et Nice, hein, de toute façon. Il y aura pas des blessures, il y aura des os éventrés,
là, ça va très loin. Particulièrement au niveau du sexe. On va dire choses comme elles sont. Là, il n'y a pas de problème. Hein. Là, ils sont lâchés.
C'est un anglais.
Et alors, par contre, c'est dans ce tome 4, si tu veux, ils n'agissent pas ensemble. Ils agissent chacun de leur côté. C'est-à-dire, ils vaquent à leurs petites affaires, hein, comme c'est un petit peu présenté dans le quatrième de couverture. Et on s'attache plus à l'histoire de Yugi, hein, de petit Yugi. C'est-à-dire le type qui est dessiné, qui a la tronche de Simon Pegg. Donc ça le fait pas mal parce que il développe son histoire d'amour, son amourette avec Stella. Tu te rappelles, c'est la nana qui débarque de sa province dans le premier épisode et puis qui se fait un peu bizuter, on va dire, par les sept, hein, c'est-à-dire le groupe de super-héros le plus important, quoi. Elle se fait bizuter de manière un petit peu, bon, on va dire, dégradante, quoi. Et là, bon, bah, on s'attache beaucoup à ce personnage dans la première partie. Sa rencontre avec Yugi, enfin, ses retrouvailles avec Yugi, hein, qui vont terminer au lit d'ailleurs. Et puis bon, avec une conclusion assez, un peu trash, on va dire, quoi, quand même. Et on assiste également, ben justement, dans cet épisode.
On imagine très bien pourquoi Superman ne sort jamais avec Lois Lane.
Et on assiste également dans cet épisode, ben, au retour d'entre les morts d'un des super-héros, du groupe que justement la bande de petits gars avait dégommé lors du premier tome. à savoir le premier mec qui a dégommé Kiyugi, eh bien justement bah il est revenu soi-disant d'entre les morts et donc il faut le redégommer. Alors bon bah c'est
encore
une
non.
grosse claque dans la gueule en ce qui concerne les super-héros. Il y a une bonne démystification de ce genre de monde, du monde des comics en général. Alors c'est ça qui est vraiment très bien parce que c'est fait de manière très très fine. Mais ça, et ça fonctionne à fond. Bon, mais par contre, il faut reconnaître que c'est vraiment de la bande dessinée pour adultes, avertis, parce que ça va vraiment très très loin, que ce soit dans la violence, que ce soit dans le sexe et autres. Je passerai les détails. Les détails, c'est justement ce qui est le plus intéressant dans le bouquin, de toute façon. Et où on voit que, tu sais, le petit rat qui sort d'un endroit un petit peu inopportun à la fin du premier tome. Et ben en fait, il est pas mort, il a été adopté.
Oh non! Oh non! Oh t'es glauque!
Et ben ouais,
bon, c'est enfin, Gardenis quoi!
Ouais, ouais, c'est tout à fait quoi! C'est... Donc, bon bah, ben, The Boys, hein, c'est des bleus à l'âme, c'est le quatrième tome donc de cette immense série qui est sortie chez Panini Comics.
N'oubliez pas que la plupart de nos chroniques bande dessinée sont accessibles sur le site de l'émission supplémentweekend.fr. Vous êtes écouté Radio FMR sur 89.1 et c'est l'émission du ZVE numéro 216. Et du sport est allé changer les piles de la zapette, ça veut dire qu'il va passer à la télé et que oui, il les a vidées les piles. Et de suite, Rocker Ziffy, Time's Up, première partie, un extrait de l'album Time's Up.
Well, Father D.
Yes, sir.
Looks like it's just you and me again, huh?
Aye.
Round the bend, tell your friend. Why we love what's going on the street, you know? All this gun, bad boy business. We got the chest and respect. You love that?
Sure. What about that? Gun talk and bad boy jokes and all them something there. Watch out. Them think I'm a bad man, them sign soon done, man. Them time up. You watch what me I say.
We used to have peace and love in this community, where the sounds of the bass would continuously. And yes, we'd rock all night long to the sound of the beat as the bass would play on. The ragamuffin on the streets like cancer, thinking the goal and chops and chains are the answer. To who did they pray? But what would they say? Come and start up a bright new day. Time's up.
Time's up.
Check. Tick tock.
Time's up.
Check. Tick tock, your love round. Time's up.
Time's up.
Check. Tick tock, your don't stop.
Time's up.
Check. Tick tock, your don't stop. Now when you're looking at the mirror, tell me what do you see? The image of a man who's just the same like you and me. And fire, water, air, and earth, I tell you this I'll be. In this is a good concept I took up a lead. But what was written in the dark will be revealed tonight. Cause written down in Genesis, the man should keep alright. Fire, water, air, and earth.
Concept that I do believe.
Time's Up par les Workers Ify. Mais de suite, tout à fait autre chose. Hein? Non, allez, hop.
Les scénaristes se suivent et se ressemblent. Les héros s'en sortent toujours et on aime toujours ça. C'est la loi des séries.
Tu vois, il n'y a pas que, que ta télécommande qui est tombée à plat, il y avait aussi la mienne. Bonjour, Dus.
Non, non, mais je l'ai retrouvé, c'est bon.
Te raconterai l'histoire d'un copain qui a expliqué dans un mail collectif qu'il avait perdu sa télécommande derrière le four micro-ondes de sa table de nuit. Ce qui, vu la tournure de la phrase, signifiait qu'il avait plusieurs fours micro-ondes dans son appartement.
Ouais. Four micro-ondes, table de nuit, je vois pas trop le rapport.
Ouais. Surtout bon. Que j'ai perdu la télécommande, j'ai la flemme d'aller la chercher.
C'est une question de hauteur.
Je n'en sais rien, honnêtement. Mais bon.
Alors, l'extrême cinéma, on le fait quand là? On le fait après un peu,
j'en ai parlé déjà un petit peu, mais si tu veux.
Encore à la fin, quoi.
Puisqu'il y a la nuit Nawak ce soir.
Ouais, voilà.
Et j'y serai en pyjama.
Ah bon, bah. Okay.
Voilà. J'irai avec mon coussin et une couverture. Et on y va en bande.
Ok,
voilà.
Ça roule. Au niveau des séries, un petit peu de nouveautés quand même. Deux inédites que j'ai repérées. Tout d'abord, bon bah toujours dans la série, enfin dans la famille, les productions Canal+, on fait du franco-français pratiquement et on essaie de faire de la bonne série. On a vu qu'avec Braco ça fonctionne vachement bien. Et là, bien dans le même registre, eh bien on propose une autre série, 8 épisodes de Pigalle la nuit, écrit par Marc Herpou, réalisé par Hervé Admar. Alors les deux compères se sont un petit peu introduits dans le milieu de Pigalle. Ils y ont habité 4 mois, ils ont zoné la nuit, toutes les nuits, regardé un petit peu tout ce qui s'y passait pour s'imprégner un petit peu de l'ambiance de l'endroit. Et pour produire cette série, dont le pitch est très simple, en fait c'est un frangin qui va rechercher sa sœur qui s'est perdue et qui s'est probablement perdue dans les milieux interlopes de Pigalle. Le frère est joué par Jalil Esper et la sœur est interprétée par Armel Deutsch. Sinon on a également dans les rôles principaux Simon Aquarian, un des acteurs fétiches de du Marseillais, là, Guédiguian, là. Simon Aquarian qui joue le rôle d'un patron de maison close, on va appeler ça comme ça, Sarah Martins, Hubert Koundé entre autres, ce qui veut dire que ça peut le faire pas mal, assez intéressant. Attention, c'est une série moins 12, pas mal de filles déshabillées on va dire, mais aussi pas mal de sexe, ça peut le faire quand même. On va voir ce que donne ce traitement de Pigalle. Enfin, moi je croyais franchement que Pigalle ça commence à être vraiment la fin quoi, en ce qui concerne le Pigalle qu'on a connu dans les années 60-70 quoi.
Oui, mais ça s'est énormément commercialisé, mais c'est vrai qu'il y a encore des bas-fonds, il y en a encore qui tournent autour, mais c'est vrai que c'est devenu un quartier luxe. Ceci dit, on n'est pas très loin du 17ème hein.
Donc c'est sur Canal+, et comme je disais, ça avait un petit côté cousin de Braco, c'est normal. C'est également une production Canal+, Pigalle la nuit prend le créneau initialement occupé par Braco, à savoir le lundi. Lundi à 20h45, deux épisodes de cette série Pigalle la nuit qui en compte 8. Sinon, ça peut être intéressant, ça peut être la bonne surprise. Alors vous savez quel est mon penchant pour les séries d'origine flamande.
Oh non.
Et là tu crains le pire.
Oh ouais.
Mais tu aurais tort, parce que ça peut être une bonne surprise. Il s'agit d'une série belge relativement récente, qui date de l'année dernière, 2008, qui a d'ailleurs eu le prix ou l'award de la meilleure fiction 2008 en Belgique. Ça s'appelle Urgence Disparition. Et ça nous raconte les aventures, un petit peu à la manière de FBI porté disparu aux États-Unis. Les recherches d'une cellule des personnes disparues en Belgique. Et il paraît que ça dépote pas mal, c'est assez choc quand même, c'est toujours du moins 12. Et un petit peu à l'instar de ce que faisait cette série canadienne là qui s'appelait Cold Case.
Cold Case, oui.
Cold Case au départ.
La version originelle.
Version originelle. Et qui, dans chaque épisode, essayait de résoudre un meurtre ou une ancienne affaire non résolue. Là, il s'agit de retrouver des personnes. Et donc, chaque épisode a le nom d'une personne. Alors, c'est interprété par Kundebo, Jock de Wink, Stan Van Samang, donc vous avez compris que c'est la Belgique du côté flamand, hein, mais par contre il paraît que ça dépote pas mal, c'est sur W9 à partir de demain soir. Alors bon bah comme d'habitude, un pléthore d'épisodes, 4 épisodes au total.
Oh non,
demain soir à partir de 20h35.
Si tu loupes une soirée, t'es tellement déconnecté, t'as plus envie de suivre et tu vas les pirater, c'est débile. Hein.
Ouais,
ils sont débiles. Hein.
Ouais mais c'est ce que ça m'a fait pour Harper's Island, tu vois.
Pour Dollhouse, j'ai pas pu la semaine dernière, j'ai pas pensé à enregistrer. Ah, c'est fini. Très con.
Alors, donc Urgence Disparition, hein, je le rappelle, donc c'est demain soir à 20h35 sur W9, et ça peut être une bonne surprise, hein, cette série belge. Sinon, ce soir, dans New York Unité Spéciale, un petit guest star qu'on connaît bien, car il était
Jésus
à l'antenne.
Jésus Franco ?
Non, pas du tout, il était à l'antenne, à l'écran, il n'y a pas si longtemps que ça. Dans une série de bonnes factures, on va appeler ça comme ça, c'est dans New York Unité Spéciale, donc ce soir à partir de 23h10, on en est à la saison 10, alors que du côté de Law and Order, la série originelle, on en est à la série 20. La 20e, hein, ils sont déjà en train, et d'ailleurs il y a un épisode de la saison 19 qui passera après deux autres épisodes de New York Unité Spéciale, donc très tard dans la nuit ce soir. Mais là, bien, on a quand même Navin Andrews, Sayed de la série Lost, qui est donc guest star de cet épisode qui s'appelle L'Excellence à tout prix, ce soir dans New York Unité Spéciale. Alors, encore Round Patrouille Orion. Deuxième épisode ce soir sur Ciné-Cinéma Classique à 20h40. Donc, le deuxième épisode, Une planète en dérive. Sinon, pour ceux qui l'ont pas vu, et c'est un bon double épisode, on va dire. Hein, il y a quand même, des moments de bravoure. Hein, je sais pas comment on appelle ça. D'ailleurs, je me rappelle pas l'expression consacrée. En ce qui concerne les séries et dans la série des experts, il y a quand même des bons épisodes. Celui-là est devenu un classique. Hein, jusqu'au dernier souffle demain soir sur TF1 à 22h40.
L'histoire du type qui est mort éventré, trucidé, énucléé, raboté. Enfin, je sais plus. Je crois qu'il lui arrive tout. C'est ça.
Non, pas du tout. C'est celui qui est le double épisode qui est réalisé par Tarantino, dans lequel l'un des membres, George Eads, se fait enterrer vivant.
Oui.
Voilà, jusqu'au dernier souffle. Donc, c'est demain soir
avec,
à 22h40 sur TF1.
Avec un final complètement délirant où il hallucine par le manque d'oxygène. Et c'est d'un gore énorme, gigantesque.
Alors, Harper's Island. Alors donc, t'as pas eu le temps de jeter un coup d'œil sur cette série slasher gore Harper's Island, qui d'ailleurs, eh bien.
Mais c'est sur quelle chaîne
C'est sur W9. Hein, le mardi. C'était mardi dernier, donc. C'était jeudi. Avant-hier.
De toute façon, j'aurais pas pu l'un pour l'autre. Hein.
C'était avant-hier, donc en concurrence avec Dollhouse, hein, justement, quoi, sur Teva. Donc merci les gars. Enfin bon, c'est normal qu'ils se fassent concurrence. Mais
oui,
là,
oui,
bien,
au sein du même groupe en plus.
Vu la teneur du contenu dont j'ai parlé samedi dernier, hein, c'est quand même une série gore. Hein, ça commence direct dans le premier épisode, au bout de 5 minutes, par une mort très originale, on va dire, sous l'eau. Hein, attaché sous un bateau et très près de l'hélice du bateau, tu vois, alors que quand ça démarre, ben c'est pas bien. Enfin, tu vois le genre, quoi. Et la série, c'est pas génialissime, bien entendu, mais ça tient quand même ses promesses. Et il y a quand même une brochette de bons acteurs et d'actrices, hein, qui font que la série tient la route. Par contre, bon, ok, quoi, les meurtres sont vraiment très brutaux, ça, il faut le reconnaître. Et il y a quand même un minimum d'imagination, on va dire. Hein. C'est-à-dire que, bien entendu, il y a l'ensemble des clichés
qu'on peut attendre de ce genre de série, comme les clichés qu'on attend généralement dans ce genre de film, hein. Thomas pourrait en parler assez longuement s'il était là, mais enfin, toi aussi sans problème. Là, on les évite pas, mais ils sont quand même très bien tournés et ça fait que bon, on se laisse vraiment prendre au jeu. Bon, on va revenir à ce qu'on disait avant, à savoir que se taper 4 épisodes à la suite, c'est-à-dire pratiquement deux fois un film slasher, quoi, tu vois, pratiquement deux fois deux slashers l'un après l'autre. Bon, c'est un peu gavant quand même, quoi, faut reconnaître. Et donc, ça se fait peut-être au détriment de la série. Et bien là, des programmations de Harper's Island qui ne sera plus diffusée jeudi prochain, mais par contre mardi prochain, et à une heure un peu plus due, on va dire, parce que les crimes sont quand même assez gore, il faut reconnaître. Alors passer ça en première partie de soirée, ça le fait pas trop, parce que déjà l'épisode numéro 5, il y en a déjà 4 qui sont passés, donc l'épisode numéro 5, le couperet est moins 12, mais surtout le numéro 6, le harpon est moins 16. Donc là, oui, c'est bon, sûr ça que va, là, c'est pas possible de le passer avant 22h30. Donc ce sera mardi prochain, à partir de 22h30, l'épisode 5 et 6 de Harper's Island, avec Christopher Gorham, avec Richard Burgi. Alors Ariam Lee, on le voit dans le premier épisode, rassurez-vous, on le voit plus, parce que bon, c'est Slack, le deuxième cadavre, et puis en plus, trash, quoi, tu vois, coupé en deux le mec, quoi, bon, ok, hein. Et la partie inférieure, tu sais pas où elle est passée. Harper's Island, donc, sur W9, c'est donc mardi prochain à partir de 22h30.
Vous écoutez le supplément week-end sur Radio FMR.
Bon, une petite dernière, série pour la route. Ensuite, tu passes un petit morceau de musique et ensuite, on attaque les films.
Ah, d'accord, ok.
D'accord,
ok.
D'accord, ok.
Ok.
Alors, ça marche. Ouais, alors, totalement différent de Harper's Island, mais également défendable. La petite maison dans la prairie sur Teva, dont la chaîne diffusera, la chaîne va diffuser donc mardi prochain 20h35. Le dernier épisode de la saison, c'est un épisode double, hein, qui s'appelle Le Dernier Adieu.
Alors déjà, ah oui, bon, qu'il y en a eu d'autres avant.
Non, mais justement, alors moi, il me semblait qu'adieu, généralement, ça veut dire que bon, il y en a plus, terminé, quoi, tu vois, over, quoi, on n'en parle plus, quoi, tu vois, alors que là, Dernier Adieu, ça veut dire qu'elle a déjà eu un adieu avant. Hein, parce que là, c'est le dernier, quoi. Enfin bon, laisse tomber, quoi, c'est pas la peine. Donc c'est le double épisode qui clôt cette magnifique 10e saison et dernière saison de La Petite Maison dans la Prairie, réalisé par Michael London, bien entendu.
Un bûcheron.
En 1984. Et ça se passe mardi prochain à 20h35. Et le lendemain soir, Teva, hein, dans un élan de bonheur et de bonté, nous offre carrément, eh bien, le téléfilm.
Et de générosité chrétienne.
Ah, bien sûr. Le téléfilm qui a été à l'origine de la série de Laura Ingalls et de toute la bande, Teva, mercredi prochain à 20h35. Il était une fois La Petite Maison dans la Prairie, déjà réalisé par Michael London en 1974 avec Karen Grassler, avec Melissa Gilbert.
Voilà, et c'est là où il y a la scène où ils descendent avec le chien que l'on n'a pas vu après.
Tout à fait, c'est sur Teva, donc mardi et mercredi prochain, 20h35. La Petite Maison dans la Prairie.
Pour ne pas crever de faim, ils ont dû plumer le chien et le manger, bien sûr.
Si avec ça. Et tout le reste. Donc mardi, les derniers épisodes. Les deux derniers épisodes de La Petite Maison dans la Prairie à 20h35, mardi prochain sur Teva. Et le téléfilm à l'origine donc de cette série, 10 ans auparavant, donc sur Teva, mercredi prochain. Il était une fois La Petite Maison dans la Prairie.
Yoko Kano and the Seatbelts, remixé par le DMX Crew, l'allemand du label Reflex. Cats on Mars, extrait de la musique Cowboy Bebop Music for Freelance.
Thank you.
Yoko Kanno and the Seatbelts, Cats on Mars, excusez-moi, remixé par le DMX, par DMX Crew. Rien à voir avec le rappeur, attention, bande de... Ah. Ma foi, mais dans quelle galère on s'implique la semaine prochaine une fois de plus?
C'est pas une galère.
Ah non, au contraire.
Oh bah non.
Ah non, c'est vraiment génial quoi la semaine dernière, on s'était vraiment éclaté et on y retourne avec beaucoup de plaisir. Bus.
Ouais, le Toulouse Game Show, donc c'est samedi et... ouais c'est ça, hein, samedi,
oui,
dimanche
samedi
prochain.
Et dimanche, voilà, 10h à
19h. Ça se passe à l'espace Diagora à Toulouse-la-Bège, à côté des... là où il y a le ciné, juste à côté quoi, tu vois.
Oui, oui, juste derrière.
Juste derrière quoi, avec comme invité prestigieux cette année, Corinne Nemec, Parker Lewis, bien entendu, mais pas que, parce qu'on l'a également vu dans un rôle récurrent, c'était dans la série Stargate. Rappelle-toi,
oui, oui.
Stargate, qui est quand même la série de science-fiction la plus vieille en termes de durée.
Aux États-Unis.
Mais pas aux États-Unis, même dans le monde, hein, il me semble, quoi. Parce que, bon, ils ont battu le record de Star Trek, ça c'était assez facile. Et il n'y a pas eu d'autre série de science-fiction qui ait duré autant de temps, plus de 10 ans, quoi. Ils ont duré 12 années, quoi.
63 à 80,
Docteur
à 89.
Où
ah bah
ouais,
oui!
Mais c'est pas la.
Ah bah
non,
si!
Attends,
ah bah si!
C'est pas la même chose.
Ah bah si!
C'est pas exactement la même chose.
Oh.
Ah là 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 là. Comme il est mauvais, hein. Comme il est mauvais. Comme il est mauvais. Et Corinne Nemec, à l'occasion, on l'a également vu. Moi, je l'avais vu hein, dans un mini-série tiré d'un bouquin de Stephen King qui s'appelle Le Fléau, où il y avait vraiment
un
casting d'enfer qui tue de la mort.
Bah, en général, justement, sur les mini-séries.
Il y avait des rôles principaux, lui. Il y avait également Gary Sinise.
Les mini-séries avec au scénario, adaptées des grands, grands, grands succès. De Stephen King, en général, il y a un monde, il y a un people monstre.
Ouais, non, mais pas mal du tout. Et il a également fait des apparitions dans d'autres séries, hein, comme Ghost Whisperer, dans NCIS également. Et il a également fait quelques petites bouses infâmes, comme ça, histoire de remplir un peu plus le portefeuille, histoire d'assurer le maintien du train de vie.
Et de payer les impôts.
Avec cette espèce de nouvelle vague qui était sortie il y a 3-4 ans aux États-Unis, de faire des films de monstres, des films d'horreur et tout. Il y avait toute une série comme ça, quoi, qui portait avec chaque fois une bestiole différente. Et là, lui, il avait fait Mosquito Man de Tibor Takács. Mais il y avait également, il y avait pas que le moustique, il y avait également le requin, il y avait aussi l'araignée. Enfin bon, il y a plein de bestioles comme ça.
L'iguane.
Ils avaient décliné toute une série de films à propos justement quoi des monstres à propos de bestioles.
L'iguane, et la tortue, le lamantin, le. Pardon.
Non, quand même pas. Quoi. Et Mosquito Man, donc. Compte la participation de Corinne Nemec, qui a également tourné dans le Raging Sharks, les requins tueurs, rappelle-toi.
Lequel?
Le requin tueur, l'histoire des aliens qui foutent le bordel quoi dans le triangle des Bermudes, et donc ça énerve les requins qui commencent à bouffer tout le monde.
Mais heureusement, résumé pareil.
Non, non, mais c'est exactement ça, quoi, de toute façon. Quoi. Et donc, Corinne Nemec, il est là pour remettre de l'ordre et tout, quoi, et puis casser la tête au requin.
Et toucher son chèque, en fin de
compte. Voilà, voilà. Donc, tout ça, c'est Corinne Nemec. Mais par contre, on reste quand même des fans parce que ça restera à jamais Parker Lewis. Bon, je sais pas s'il faut trop lui en parler, on verra, hein, de toute façon. Hein,
n'en sais rien.
Tu aborderas le sujet, tu te débrouilles, ouais. Hein, tu es
donc
grand,
je
majeur
sais,
et vacciné.
Je sais que Madame du Sport était prête à tuer pour avoir une dédicace. Pas besoin, ouais. Il suffit de faire la queue et c'est 20 euros la dédicace. Rappelons que les stars américaines ont l'habitude de faire payer les dédicaces.
Ah ouais, là,
c'est important.
Là, vous y coupez pas, hein, de toute façon, quoi. Là, il n'y a pas de problème. Voilà. Quoi. Rassurez-vous, cette année, il n'y a que lui comme star étrangère, donc il n'y a que lui qu'il faudra payer.
Non, il y en a d'autres, puisque parmi les dessinateurs, notamment, il y aura Yang Song.
Non mais je parle d'acteur, hein, je parle d'acteur.
Ah, en acteur,
voilà,
en
oui,
acteur,
oui,
ok.
Oui.
Je ne sais pas, peut-être qu'il y a eu d'autres choses, on verra ça cette semaine justement avec avec l'organisation du TGS.
Tout à fait.
Voilà.
Il y a également au niveau des autres invités prestigieux qu'on pourra côtoyer durant cet événement Toulouse Game Show. La semaine prochaine, Bernard Minet qui revient, et lui qui est un habitué des festivals de ce genre, hein, de toute façon, quoi. C'est un petit peu son fond de commerce, de toute façon.
Ouais, et puis
mais
il le prend
bon,
avec humour, hein, surtout.
Bon, ça va, quoi. Il le fait bien, quoi. C'est-à-dire que bon, il est pro, il fait son job et tout. Il se prend pas la tête, il prend pas la tête aux autres. Donc c'est l'essentiel.
Tu te souviens de l'interview?
Ouais, tout à fait, tout à fait.
Ben, on va essayer de faire pas même. Mal.
Sinon, il y a beaucoup d'un, il y a également d'autres invités que Xavier connaît presque
non,
personnellement.
Non, je suis pas au courant. Tu fais
avec
qui fais les
par
bio.
Exemple l'équipe de Nerds qui sera tout entière au programme, donc, et en direct live du Toulouse Game Show. Il y a également.
Et il est, se murmure qu'il y aurait aussi Yvan avec un nid des Fatal Picard, sachant qu'ils font un groupe maintenant avec Poulpe, qui s'appelle Les Rois de la Suède. On a passé le morceau la semaine dernière.
Il y a également Noé OB, ou Noob, je sais pas comment on prononce, hein, qui est une autre série qui est diffusée depuis, pas longtemps, hein, sur No Life, si, depuis novembre 2008, et qui seront également présents, d'après la photo, on dit un truc un peu moyenâgeux, genre Kaamelott, quoi.
C'est presque ça, puisque ça se passe dans un jeu de rôle massivement multijoueur. Donc médiéval fantastique. Et le problème, c'est qu'un noob, c'est un petit jeune dans le jeu. Et donc tu suis des joueurs dans cet univers impitoyable où il faut charcler du monstre et faire des missions dans des scénarios improbables. Et ils ont un joueur qui est un noob, mais un vrai de vrai. Le boulet, un gros boulet. Et la deuxième saison est en cours de diff d'ailleurs.
Voilà. Ok. Sinon, on a également.
Ouais,
tout à fait, quoi. Mais de toute façon, là, j'ai l'impression qu'ils ont fait le plein de No Life et tout. Ou alors, c'est No Life qui a vraiment fait le forcing et tout, quoi.
Non,
et qui
tout.
Fait un débarquement en force sur le TGS. Parce que bon, y a également Suzuka Asaoka, hein, qui est japonaise, comme selon l'indique, mais également surtout traductrice de pas mal de mangas, hein, du studio Clamp, genre Tsubasa Reservoir, Chronicle. Elle est également coordinatrice et traductrice au sein des Pocket Chami, une société de production spécialisée dans le Japon, et qui fait pas mal de bons documentaires sur les jeux vidéo.
C'est la boîte qui a été montée notamment par Sébastien Ruchet et Alex Pilot, qui est à l'origine de la chaîne. Voilà.
Donc, Alex Pilote qui sera également présent, donc
voilà. Tu te rends compte que même le preneur de son il est obligé de faire des dédicaces quand ils apparaissent à les conventions, c'est délirant.
Ouais. Et là donc elle a également une émission, hein, Suzuka Asoka sur No Life qui s'appelle Tokyo Café. Voilà, donc pour les invités de ce Toulouse Game Show. Mais c'est pas que ça, il y a également nombreux airs où on peut se procurer absolument tous les goodies du monde imaginable. Enfin,
ouais,
presque.
Il y aura une convention en Kama autour de Dofus, Wakfu, donc avec leur boutique de goods et tout ça. Il y aura bien évidemment, il y aura des conférences sur la science-fiction. Il y aura des concours de costumes, présentation du centre culturel franco-japonais de Toulouse. Les dédicaces, bien sûr, on a parlé de Yan Song, qui est un dessinateur donc chinois qui est invité par Xiao Pan. Patrice Sobral et Philippe Cardora qui font une bande dessinée parodique. J'ai oublié le nom, mais c'est fou. C'est fou, la Sentai School. Ah, Thomas, il m'éclaterait si je l'avais complètement oublié. Donc, ils seront présents. Renaud Lemaire, qui fait Dream Team, qui est une espèce, qui est une série, je vais dire, vraiment purement inspirée. Il y a surtout Alessandro Barbucci, qui est le dessinateur italien de Sky Doll. Je sais pas si vous voyez, les dessins qui sont super léchés, super mignons, et que c'est et je vais dire assez allumé, et ainsi que Francis Schall et Fabrice Labrousse qui font qui ont fait un immense dossier, un gros bouquin sur une trilogie de science-fiction qui s'appelle La Guerre des Étoiles, si je me souviens bien. Je sais pas si ça va marcher à l'époque au cinéma. Et bien évidemment, il y aura des concours de cosplay, du karaoké, bien délirant. Il faut y aller, mais vraiment pour déconner et tout ça.
Ouais, il y a les espaces jeux sur console.
Il y aura
petits joueurs. Enfin,
puisque
bon,
il y aura
les championnats aussi.
Il y a le championnat Pro Evolution Soccer, ça te concerne. Je sais que tu as un dieu à ça, Dus, et ou Rock Band encore, et bien évidemment des concours de jeux de cartes. Des concours des démonstrations de fanzine, des concours de Dance Revolution, c'est le jeu de danse complètement délirant.
Ouais, avec les pads là que tu as touché là. Mais ça c'était
Oui, tu m'as foutu minable à ce jeu. Oui, je sais. Ça t'éclate.
Il y a également si c'est comme l'année dernière,
il y aura
également
des quiz,
des ateliers où vous pouvez vous faire maquiller. Hein, il me
et
semble.
Oui, tout
l'année
à fait.
Dernière,
ils sont de retour.
Donc là, c'est génial parce que prend du temps. Il faut dire ce qui est. Hein, c'est-à-dire qu'il faut bien une demi-heure, presque une heure, pour maquiller quelqu'un, lui faire vraiment un super maquillage. Hein, mais là, vraiment, c'est fait par des pros.
C'est pas des pros, c'est des amateurs. Starfiction qui fait ça.
Oui.
Et c'est des mecs qui justement apprennent les méthodes de pros et la manière dont ils le font.
C'est vraiment très saisissant. Hein,
L'année dernière, on a eu justement le président de leur association qui était déguisé en Voldemort, c'était impressionnant de l'avoir en face de soi.
C'est vraiment
bluffant.
Très bon boulot, quoi.
Très beau boulot. C'est vraiment du bonheur. Plein de choses. Il y aura un espace goûter qui sera animé façon. Le collège de Harry Potter et ce genre de trucs. Vraiment, c'est un univers complètement dépaysant. Et c'est des gros fous tous de contre-culture, comme on l'est tous. C'est vraiment des geeks au tac. Donc, c'est pour ça que ça marche à fond. Mais c'est pas encore devenu la grande messe commerciale comme Japan Expo. C'est à une échelle tout à fait humaine.
Pour l'instant, profitez-en parce que vous faites pas la queue pendant 3 heures avant de pouvoir rentrer. Donc, c'est vraiment appréciable. Je peux vous le dire.
On en reparlera justement avec Sébastien Lourinsky, l'organisateur, l'un des co-organisateurs du Toulouse Game Show, justement sur comment ils font pour tenir, je veux dire, ce volume, je veux dire, d'un côté tout à fait raisonnable.
Et je suis sûr que je vais trouver mes boîtiers de cartes Pokémon niveau émergent.
Voilà, parce que Dus de ce côté-là, il a un collab, donc je sais qu'il sera au quiz Pokémon, et il y aura d'autres parents qui seront là, encouragés par leurs gamins, qui leur font « Ah, minable, papa, minable !» Ça va être chaud. Je crois qu'on va commencer par du western pour la télévision.
Comme d'habitude, hein.
Ah, d'accord.
Alors Western, comme d'habitude, c'est le samedi soir sur RTL9, ce soir donc à 20h35, et là c'est du bon, du lourd. Fureur Apache de Robert Aldrich en 72 avec Brut Lancaster, Joaquin Martinez, Bruce Davison et Richard Jekyll. L'histoire d'une bande d'Indiens Apache qui scène la désolation sur leur passage, et l'histoire des gens qui les poursuivent pour essayer de les dégommer.
C'est pas aussi binaire que ça, il y a de la manip et tout, mais on vous laisse la surprise.
C'est vraiment super bien, quoi.
Ah ouais, ouais.
Et bon. Aldrich, c'est quand même un mec qui a fait quelques westerns sympathiques, hein, qui a une bonne carrière, on va dire, en tant que réalisateur. Hein. Et c'est lui qui a également fait Bronco Apache en 54 et le très grand Veracruz dans la même année. Quoi. Et qui, l'année suivante, nous fait un petit Kiss Me Deadly, en quatrième vitesse, qui était sympathique, on va dire. Puis la même année, Le Grand Couteau, le film avec Jack Palance. Un peu plus tard, dans la décennie suivante, il nous fait Les Quatre du Texas en 63. C'est lui qui nous fait quand même Le Dirty Dozen en 67.
Les douze salopards.
Et en 71, je vous avais parlé hein, du La Chair de l'Orchidée de Patrick Chéreau en 74. Et trois ans auparavant, eh bien lui, il nous fait le premier bouquin. Moi, je vous avais dit que c'était un bouquin, enfin deux bouquins de James Hedley Chase, Pas d'Orchidée pour Miss Blandish et La Chair de l'Orchidée qui est la suite, on va dire, mais les deux peuvent se lire l'un indépendamment l'un de l'autre, mais c'est quand même mieux de lire le premier puis le deuxième. Et là, Pas d'Orchidée pour Miss Blandish, le Grissom Gang, il nous le fait en 71, donc. Et son dernier film, eh bien, c'est un de ses derniers films, c'est un petit peu plus dispensable, on va dire, mais c'est sympathique quand même, c'est Un Rabbin en fer au Far West en 78. Donc Robert Aldrich, bon, quand même bon réalisateur, il n'y a pas de problème. Donc c'est ce soir, hein, Fureur Apache sur RTL9 à partir de 20h35. Demain, du lourd également sur Arte à 20h45 avec Les Grandes Manœuvres de René Clair en 55. Cette histoire de chassé-croisé amoureux entre Gérard Philippe et Michel Morgan, avec également Jean de Sailly, Yves Robert et une pas figurante hein, parce que bon, elle arrive à, elle a quelques répliques, une jeune débutante, Brigitte Bardot. Eh ouais. Mais le film est très bien, hein, vraiment superbe. Si vous n'avez pas ce genre de film, que vous préférez ce qui pète, ce qui défouraille et ce qui dégomme. Sur NT1, demain soir, 20h35, Sniper 3 de P.J. Pêcher en 2004 avec Tom Béranger.
Merde, on a loupé les deux premiers.
C'est pas grave, c'est toujours Tom Béranger, donc le sniper. Et là, il est aidé par Byron Mann et Troy Winbush. Ou sinon, sur 13e rue, pardon, demain soir à 20h40, l'excellente adaptation d'un bouquin de Jim Thompson de Bertrand Tavernier en 80, Coup de torchon. Eh ouais, avec Noiret, magnifique, Eddie Mitchell, excellent, Jean-Pierre Mariel, impeccable, et tous les autres, hein, c'est magnifique, hein, c'est adapté du bouquin 1275 âmes, le numéro 1000 de la série noire.
Attends, est-ce que tu serais en train de louper quand même le grand duel demain, qui aura à la télévision, au ciné, dans les films?
Oh non, mais là,
si,
c'est assez dispensable.
Il faut parler du cinéma français.
Ah mais non, tu vas pas me faire ce coup-là.
Et si, c'est du cinéma français, il faut en parler, on a le quota. Donc demain, vous aurez le choix...
Mais Coup de torchon, c'est pas un film français?
Ouais, mais on aura le choix entre deux grands films, un grand spectacle, Taxi 4.
4, ouais.
Super, avec un certain Samy Nasseri dont maintenant... On connaît la bio officieuse et le cinquième élément, super. Vive le cinéma français.
Ben ouais. Donc Coup de torchon, hein, c'est sur 13e rue demain soir à 20h40. Ou sinon sur Teva, eh bien toujours dans la même thématique que ce dont je vous ai parlé un petit peu auparavant dans les séries. À 20h35, la véritable histoire de Laura Ingalls, la nana qui est à l'origine du bouquin qui a servi à faire la série, hein, donc. Et c'est carrément toute la soirée, 3h15, hein, deux téléfilms de Michael Cole en l'an 2000 avec Richard Thomas, Walt Goggins et Meredith Monroe. Sinon sur TCM, un autre excellent western à 20h40, Los Bravados d'Henry King en 58 avec Gregory Peck, Joan Collins, Stephen Boyd et Lee Van Cleef. Henry King qui lui a une carrière aussi assez magnifique parce qu'il commence et il a fait pratiquement plus de films muets que de films parlants. Il a commencé en 1915, son premier film c'est Némésis.
Il n'y a pas eu beaucoup d'acteurs qui sont passés au parlant hein, quand on s'est rendu compte qu'ils avaient une voix.
Henry King c'est le réalisateur. Hein.
Ah pardon.
C'est le réalisateur, attention, c'est lui qui réalise Los Bravados avec Gregory Peck, entre autres.
Ok, d'accord.
Donc son premier film c'est Némésis en 1915 et il nous a fait La Folle Parade en 38, il nous a fait David et Betsabé en 51, Les Neiges de Kilimanjaro en 52, Carousel en 56 et il termine par un excellent film en plus hein, en 61, Tendre et la Nuit. Ça va quoi, bonne carrière également.
Filmo exceptionnel.
Mais pas mal aussi. Donc Los Bravados d'Henry King, c'est sur TCM demain soir à 20h40. Lundi, Arte nous propose un réalisateur qu'on aime bien, Terry Gilliam, Bandy, sur Arte demain, lundi soir à 20h45 avec Craig Warnock, avec Sean Connery, David Warner, Shelley Duvall, Ralph Richardson. Enfin bon, là c'est quand même du lourd. Y a pas de problème, c'est un des très bons films, de toute façon, de toute la bande à Python. Quoique celui-là soit plus personnel, c'est-à-dire qu'il y a moins l'influence des Monty Python anglais dans ce film de Gilliam qui est quand même relativement personnel. Et on peut toujours se revoir également lundi avec plaisir, ou voir si vous l'avez jamais vu, mais ça m'étonnerait quand même, mais il y en a quand même des fois. Sur Paris Première, Terminator à 20h35. Sinon Teva vous diffuse lundi à 20h35 également un bon film d'Harold Ramis qui s'appelle Un jour sans fin, The Groundhog Day, un film dans lequel Bill Murray, qui est un reporter de télé qui est coincé dans une petite ville.
Il est présentateur météo, ouais, c'est encore plus dégradant.
Ouais, c'est présentateur météo et qui doit couvrir une journée régionale, enfin une journée de la marmotte.
Voilà.
The Groundhog Day, c'est le titre original du film.
Si la marmotte sort s'aérer le cul, ça veut dire que ça y est, c'est le printemps, sinon, on a deux mois d'hiver en plus.
Voilà, et donc l'histoire de cette journée qui recommence à chaque fois avec le réveil et tout, enfin bon.
La
c'est
musique,
vachement
nan,
bien.
C'est
excellent.
Prestation absolument géniale, mise en scène fabuleuse.
Petit film
comédie, mine de rien.
Non mais bonne.
Vraiment un petit bijou.
Ouais,
quoi.
Non, très bonne comédie américaine.
Vous auriez tort de passer à côté. C'est vraiment agréable.
Ah, Bill Murray, Andy McDowell.
C'est un mec qui adore les films à baston qui vous dit ça alors.
Chris Elliott, Steven Tobolowsky. Donc un jour sans fin, c'est lundi sur TVA à 20h35. Sinon sur la chaîne Polar à 21h. Alors là, je vous le conseille. Il est vraiment très bien. C'est un Roger Corman. Il s'appelle The Intruder en 62.
Ouh.
Et là, c'est pas un film d'effets spéciaux et tout. Non, le héros interprété par William Shatner, débarque dans une petite ville du sud des États-Unis dans les années 50 et là va attiser la tension qui existe, la tension raciale qui existe entre les noirs et les blancs, en exploitant quelques petits incidents comme ça. Et c'est vraiment très bien foutu, hein. Et dans ce film, on voit que Corman, c'est pas un imbécile du tout, qui veut faire passer un certain message et qui arrive à montrer certaines choses, et cela sans artifice aucun. C'est-à-dire que c'est uniquement au niveau de l'écriture, au niveau de la mise en scène, au niveau de ce qui se passe, qu'on se rend compte que c'est vraiment pas mal. Et là, William Shatner, qui a vraiment le rôle, c'est pas le héros, c'est le salaud, c'est enfoiré de première, c'est l'intrus, The Intruder, le mec qui arrive dans une petite ville comme ça et puis qui commence à foutre la semaine zizanie, pas possible, c'est vraiment très bien, donc je vous le conseille. C'est lundi soir sur Polar, The Intruder de Roger Corman à partir de 21h. À partir de et lundi également, une petite soirée sur Orange Cinéchoc qui est sympathique avec à 20h40 Œil pour œil de Steve Carver. Alors là, très bon Chuck Norris avec David Carradine, Barbara Carrera. Et à 22h25, un autre Chuck Norris, mais celui-là je me rappelle pas du tout, c'est celui de Ted Post en 79. Le commando des tigres noirs. Ted Post, rappelle-toi, Ted Post quand même, c'est Pandeléo et Court, avec Clint Eastwood. Et c'est également The Peacemaker en 56. C'est lui qui nous fait également Le secret de la planète des singes en 70, qui sera diffusé sur Direct 8 jeudi prochain à 20h40. Et son dernier film, parce que Ted Post a vachement plus travaillé pour la télé que pour le cinéma, c'est pour ça qu'il a pas une filmographie exceptionnelle, très fournie. Son dernier film en 77, c'est Go Tell the Spartans, qui s'appelle en français Le Merdier. Merci. Tout simplement. Donc c'est la soirée Orange Cinéchoc lundi prochain avec Œil pour œil et Le Commando des Tigres Noirs. Mardi sur W9, on a avant Harper Island, donc un film Rocky 2 de Sylvester Stallone avec les mêmes que dans le premier. Talia Shire, Burt Young, Carl Weathers, bien entendu. Sur Disney Cinemagic, mardi prochain à 20h30, La Coccinelle à Monte Carlo de Vince McIvity. Vince McIvity qui après est devenu le réalisateur fétiche des Columbo. Les Columbo des années 80 ou 90 sont tous signés Vince McIvity. Et là, qui signait donc le quatrième, je crois, c'était le quatrième ou le cinquième Coccinelle, mais les Coccinelles originales avec Dean Jones, donc Julie Sommer, et surtout un certain, pour la palette française, on va dire, exotique, Jacques Marin.
Il est pas le seul. Je crois qu'on voit passer en garçon de café un acteur moustachu. Et il y a une partie de la troupe du Splendid qui vient faire cachetonner
dans
la Coccinelle à Monte Carlo. Regardez-les bien.
Peut-être. Donc Disney Cinemagic, c'est mardi prochain à la Coccinelle à Monte Carlo à partir de 20h30. Ou sinon sur TCM, un bon Byron Iskin de 53, Le Roi des Îles à 20h40 avec Brut Lancaster, André Morel et Joan Rice, l'histoire de Corsair. Alors mercredi, soit deux bouses ou alors un chef-d'œuvre, vous avez le choix. Deux bouses à la suite sur NT1 à 20h35. Tout d'abord Python, l'original de Richard Clabo en 2000 avec Robert Englund, Casper Van Dien, William Zabka et Will Wheaton. Ouais, casting quand même intéressant, on va dire, mais enfin bon,
pas le film.
Ça tient pas la route, quoi. Et Python 2, donc à 22h25 sur NT1 mercredi prochain. Alors le Python 1, il est moins 10, le Python 2, moins 12 quand même.
C'est quoi, c'est la taille?
Non, c'est tourné l'année suivante, donc avec comme survivant William Zabka et également Dana Ashbrook dans la
distribution. Oh non, tu viens de spoiler.
Ah ben, désolé. Ou alors le chef-d'œuvre, hein, c'est sur 13e rue, mercredi prochain, 22h30, Série Noire d'Alain Corneau, avec Dewaere, Myriam Boyer, Marie Trintignant, Bernard Blier, dans un film tout à fait excellent et magnifique. Jeudi, sur France 3, à 20h35, un bon western, hein, Kevin Costner, on a l'habitude, hein, il nous a déjà fait l'autre truc, là,
Danse avec les loups,
qui était pas mal, quoi. Non, franchement, faut dire ce qu'il y a, quoi.
Non, c'était il est bien.
Un grand chef-d'œuvre, ouais. Mais bon, bien que c'est le film qui ait fait un carton, hein, de toute façon, quoi. Mais bon, c'est pas un chef-d'œuvre, quoi. Et là, Open Range, un film plus récent de Costner, avec Costner, bien sûr, hein, 2003, avec Robert Duvall, Annette Bening, Michael Jeter. Bon, ça le fait quand même, hein, faut dire. Et il est moins 10. Sinon, sur Arte, un petit film qui avait également cartonné, hein, quand il était sorti, un film québécois, canadien, à 20h45, Crazy, avec Michel Côté, Emilio Vallée, Daniel Proux, entre autres. France 4 vous diffuse également jeudi prochain une bonne soirée cinéma, on va dire, hein, avec un choix éclectique. Tout d'abord The Island, un film où Michael Bay il montre
Explosion.
Qui peut pas faire que des explosions vu que c'est un film de science-fiction, donc là-bas ok, hein, ça peut le faire, ça le fait aussi également avec Ewan McGregor, Scarlett Johansson, Sean Bean, Jimu Nunsu, Steve Buscemi, bon ok, et à 22h25 le petit film français Mais de Pierre Jolivet, c'est-à-dire toujours une excellente qualité, 99, Ma Petite Entreprise, avec Vincent Lindon, Roger Zem, François Berléand, Zabou Brightman, vraiment, franchement, c'est
assez
pas
acide,
mal,
hein.
C'est sympa,
assez
quoi.
Acide, ouais.
Ah ouais, mais comme toujours dans les Jolivets, ouais. De toute façon, c'est pas gentil, Pierre Jolivet.
Ah oui, non, loin de là. Radio FMR, il est midi, il est 13h31, c'est le supplément week-end.
Ah, hein,
et du sport, ma foi, qu'est-ce que tu as encore?
Alors, toujours jeudi prochain, un excellent polar sur 13e rue à 20h40, Nid Gap de Florent et Emilio Siri.
Avec
Samy Nasseri, Nadia Fares, Benoît Magimel, mais vraiment
comme
excellent.
Comme dit Thomas, Samy Nasseri, des fois on le supporte pas comme acteur, mais il a une gueule, il a une expressivité,
ouais.
Et quand effectivement, il se retrouve paralysé, il occupe l'écran, c'est impressionnant. Et c'est vrai que c'est un excellent polar français, film d'action vraiment bien monté.
Film d'action également sur TF6, jeudi prochain 20h40, c'est Rambo 3. Avec Marc Dejonge, bien sûr.
Ce film est dédié à la mémoire de tous les combattants de la liberté qui battent le communisme dans les mairies.
Voilà, et puis le retour de bâton, eh bien, c'est l'arrivée justement des bridés aux États-Unis avec le film juste après, Rapid Fire, Brandon Lee. Il fout la pâtée à Powers Booth et à Nick Mancuso réunis dans le film de Dwight Little qui devait être le dernier de Brandon Lee, hein, puisque juste après, il se prenait une bonne balle dans le buffet, quoi, lors du tournage du film de Crow.
Accident.
Ouais, qu'est-ce que tu veux, quoi. Hein. Alors ça c'est la soirée TF6, hein, donc jeudi prochain, Rambo 3 et Rapid Fire. Et Rapid Fire, ça se laisse bien regarder. Ça a vachement vieilli parce que depuis. On a beaucoup pris le pli de ce que faisaient les Asiatiques dans leurs propres films. Et là, c'est vrai que bon, bah, ça n'a rien à voir, hein, parce que bon, c'est quand même un film américain fait par des cascadeurs américains. Donc, bon, on voit un petit peu la différence.
Oui, ils tiennent encore une seule arme à la fois. Il n'y a pas les câbles partout.
Ah, non,
ils
ne
sont
non,
pas
non,
habitués non, à non, vraiment passer à travers un mur.
Il y a, mais c'est au niveau de la rapidité. Bon, bah, ok, quand on se dit, tiens, c'est un petit peu lent quand même, quoi. Mais bon, c'est quand même bien foutu, hein. Il n'y a pas de problème. Je dis toujours sur Ciné-Cinéma Classique, alors là, un bon polar, hein, La femme à l'écharpe pailletée de Robert Siodmak en 50 avec Barbara Stanwyck, Wendell Corey et Paul Kelly. Robert Siodmak, hein, qui lui a fait dans tous les genres, et il a fait vraiment des films qui tuent. Son of Dracula en 43.
Qui tue, t'as
Les mains qui tuent en 44. The Killers en 46. Tiré du bouquin de Hemingway, hein, en avoir ou pas, avec l'apparition, le duo diabolique. C'est la première fois que Brut Lancaster a un premier rôle dans un film, et avec en face de lui Ava Gardner.
C'est ça qui est fou, c'est qu'il avait eu une grande carrière dans les années 30 et années 40, et là il a fallu du temps avant vraiment qu'il soit à la tête d'affiche, quoi.
Eh ben, c'était dans ce film, hein, dans The Killer, hein, un film qui se passe entièrement en flashback et tout. Enfin bon, c'est magnifique.
En construction,
Pour toi, j'ai tué en 48, Chris Cross.
Non, c'est vrai?
Ouais. Cry of the City en 49, Corsaire Rouge en 52, encore avec Brut Lancaster. Enfin bon, bref, c'est Siodmak, quoi. Alors, pas confondre avec Kurt, hein, il y a également Kurt Siodmak, quoi, le même truc. Mais bon. C'est pas le même du tout. Donc c'est La femme à l'écharpe pailletée, c'est jeudi prochain sur Ciné Cinéma Classique. Ou alors également une tuerie de l'enfer qui tue, quoi, sur TCM à 20h40. Un après-midi de chien de Sidney Lumet avec Al Pacino, excellent, mais alors excellent, hein, dans ce film. Et également John Cazale, une histoire de braquage de banque et de prise d'otage et tout. Là c'est Al Pacino, il est vraiment impeccable, nickel. C'est je crois que c'est dans ce film que je l'ai découvert, hein, quand il est sorti au cinéma en 75. Et là je peux te dire que j'ai pris une grosse claque, quoi, vraiment, avec cette performance. Vendredi, pour terminer, Canal Plus, eh ben c'est la première diffusion de Mesrine, l'instinct de mort, à 20h40, donc pas de problème. Et si vous aimez bien les batailles navales, là je vous conseille quand même sur Astel 9 vendredi prochain à 20h35, Master and Commander de Peter Weir en 2003, avec Russell Crowe, Paul Bettany, Billy Boyd. Bon, ça vaut surtout parce que là, au niveau des scènes de bataille navale, là ils ont mis le paquet, et c'est vraiment très bien foutu, quoi. Là, y a rien à dire, hein. Là, t'en as pour ton argent, quoi. C'est vraiment très très bien, quoi. Master and Commander. Vendredi, où il y a pas mal de bons films en plus, hein, puisque vous avez pratiquement pris que des bons films. Avec sur Ciné Cinéma Premier, Mise à prix de Joe Carnahan, excellent, hein, avec Ray Liotta, Jason Patrick, Jérémy Piven, et plein de second rôle, Ben Affleck, enfin bon, j'en passe à des meilleurs. Mais vraiment excellent, hein, Mise à prix. Sur Ciné Cinéma Star, vendredi prochain à 21h, Les Hommes du Président d'Alan G. Pakula, hein, le film classique, hein, l'histoire du scandale de Watergate, et l'histoire montée comme une histoire à suspense, un thriller, hein, l'histoire qui a permis à deux journalistes de débusquer le scandale du Watergate avec Robert Redford et Dustin Hoffman, Martin Balsam.
Avec une mise en scène et un montage le split screen et tout.
Ouais, c'est hyper bien foutu, hein, de toute façon, quoi.
On peut pas passer à côté.
Ah non. Et je termine avec le classique, hein, du vendredi maintenant, quoi, sur Cinéfix à 21h.
Le classico du vendredi.
Le classico, Hercule et la reine de Lydie. Ça, c'est un grand classique, faut dire, dans la série des Hercules, parce que c'est Steve Reeves qui interprète Hercule, donc il n'y a rien à dire. Et Sonia Lopez, donc la reine de Lydie, tournée en 59 par Piero Franceschi, donc un peplum italien pur et dur, hein, de toute façon, quoi. C'est sur Cinéfix vendredi prochain à 21h.
Et je vais aller très vite pour l'agenda avec Extrême Cinéma ce soir à la Cinémathèque. C'est la nuit de 22h à 6h du matin. Ce sera la clôture, donc, qui sera avec des films absolument gigantesques à ne pas passer à côté. Avec, bien évidemment, Le Brendet de Peter Jackson, American Ninja en version française, Isla la Tigresse du Goulag en version française, Enfoiré de Président, qui est une fiction autour de Coluche devenu président, mais y aura-t-il une résistance, et plein de courts-métrages et du café et des croissants à 6h du matin si on a tenu le choc jusque-là. Y a aussi le salon de la bande dessinée de Colomiers, mais en l'absence d'infos et en boycott, vu le boycott de l'équipe de Colomiers, ben je ne peux vous donner d'infos. La semaine prochaine, ce sera une spéciale autour du 3e Toulouse Game Show qui aura lieu dans le supplément week-end pendant qu'aura lieu le Toulouse Game Show à l'espace Diagora à la Beige avec donc toute l'équipe dont on vous a parlé tout à l'heure. Et le 5 décembre, Serge Pelé dédicacera Orbital, ami Alim Mahmoudi dédicacera Arabico, ce sera à Librairie Terre de Légende et peut-être qu'ils seront en invité dans le supplément week-end. Je n'ai pas Thomas, mais je peux vous faire un résumé pour savoir ce que vous avez manqué et si vous êtes arrivé en cours de route. Eh ben, sachez que Pigalle n'est pas mort, Lost est en Belgique, les loups sont dans la prairie, le Yeti est dans la montagne. Et Assassin's, c'est dans le Creed. Et surtout, le temps des cités montre comment la drogue a changé de main dans les années 80. Et oui, vous avez manqué tout ça. Mais non, deals à la tigresse du goulag. Vous pouvez, grâce à la diffusion différée, réécouter l'intégralité de cette émission, retrouver nos chroniques écrites, par exemple l'Imaginarium du Docteur Panassus cette semaine, ou encore plein d'autres choses, jouer à des jeux stupides, et nous écrire. Laissez vos commentaires, posez vos questions, n'hésitez pas, il suffit d'aller sur le site web de l'émission, supplémentweekend.fr, supplémentweekend.fr, sans accent ni tiré. Vous écoutez FMR sur 89,1 MHz. Nous sommes en direct et en alternance avec Booster FM qui prend la suite à partir de 17h et en continu sur radio-fmr.net. Dans le prochain épisode, nous vous donnerons un coup d'œil derrière le Toulouse Game Show avec des interviews et des éclairages sur l'univers otaku. Et vu qu'on est nous-mêmes des geeks otak garantis sur facture, promis, on ne va pas vous trahir. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même fréquence, mais pas en direct. Ciao, bye bye, et je vous cède de suite la place à du sport. Sport, elle a été touchée par la main de Dieu.